d'encourager en parcourant la Bible, verset livre par livre. Romains 12, verset 3 à 8. À la colombe, la Bible bleue, c'est page 180. Je vais relire juste pour que l'on puisse. Je vous exhorte donc, frères, ne soyez pas à l'abri de ces exhortations si vous êtes. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, aujourd'hui, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétention excessive, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la foi, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Dieu. Nous sommes tous membres de Dieu. Nous avons des différences selon la place que nous avons appartenu. C'est la protection de ce pouvoir en rapport avec la foi. C'est le bien commun. Donc, je vous ai indiqué que le chapitre 12, c'était un peu la vie pratique du chrétien. En rapport avec d'abord avec Dieu, c'était les chapitres, les versets 1 et 2. Maintenant, nous voyons les relations du chrétien avec les autres chrétiens. Et puis, nous terminerons par les relations du chrétien. Et quelques personnes m'ont dit que c'était bien, c'était pratique, l'enseignement de la semaine dernière. Par rapport, c'est vrai, au détour que nous avons fait avec le plan de Dieu vis-à-vis d'Israël, qui peut nous sembler un peu lointain et qui pourtant est essentiel, à savoir que les promesses de Dieu sont irrévocables. Ce qu'il a promis aux Juifs, il va le tenir. Ce qu'il promet aux chrétiens, aux croyants, il va aussi tenir ses promesses. Et fort de tout cela, Paul nous a exhortés à nous présenter comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et de ne pas être pressé dans le moule du monde qui nous entoure, mais d'être renouvelé dans notre intelligence. Et si on fait ça, on va connaître la volonté de Dieu. Souvent les gens se disent, mais comment savoir si Dieu veut que je fasse telle ou telle chose? Si nous sommes renouvelés par l'intelligence, si nous renouvelons notre intelligence en étant dans la parole, en priant, en servant, nous allons être à même de distinguer, de discerner cette volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu, des fois on a l'impression que si je dis à Dieu je vais faire ta volonté, alors il va nous envoyer dans un endroit où il y aura des araignées grosses comme ça, si on a peur des insectes, où il y aura des serpents longs comme ça. Mais en fait, la volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose de mauvais pour nous. La volonté de Dieu, c'est quelque chose qui est bon, qui est agréable et qui est parfait. Et parfait, c'est dans le sens où ça nous amène à la maturité. Le but de Dieu, nous l'avons dit, ce n'est pas que nous restions des têtards, même des têtards géants ou des petites grenouilles. Il veut que nous arrivions à la maturité pour servir. Et c'est
l'objet de ces versets que nous avons lus, chapitre versets 3 à 8. En fait, le chrétien, il pourrait se demander, mais une fois qu'on est sauvé, pourquoi est-ce que Dieu nous envoie pas tout de suite au paradis, un peu à la façon du brigand sur la croix, qui a une des vies chrétiennes les plus courtes. Il a cru que Jésus était le Fils de Dieu, et en exprimant sa foi, en reprenant l'autre brigand, Jésus lui a répondu que le soir même il serait au paradis. Là, c'était une vie chrétienne très courte. Mais généralement, il nous donne plus de temps ici-bas. Et s'il nous donne plus de temps, c'est qu'il a choisi, dans sa souveraineté, qu'on ne comprend pas, pourquoi est-ce qu'il a choisi de le faire. On disait tout à l'heure que si nous ne louons pas le Seigneur, les pierres le feront, les montagnes vont crier. Il suffit le matin d'entendre les oiseaux qui chantent à tue-tête la gloire du Seigneur qui leur donne la vie. S'il le fait, c'est parce qu'il a choisi dans sa grande bonté, dans sa grande intelligence, de nous utiliser. Et donc, en général, lorsqu'on est sauvé, on est sauvé pour servir. On n'est pas sauvé pour se régaler à rien faire. Sauvé pour recevoir tous les bénéfices de cette relation avec Dieu sans jamais lui donner notre service en retour. Encore une fois, ce service que nous pouvons lui offrir, c'est pas pour mériter quelque chose, c'est pas pour gagner des bons points, c'est simplement parce que nous sommes tellement reconnaissants de ce qu'il a fait déjà pour nous. Le Seigneur Jésus est mort par amour pour nous sur la croix, il a quitté son trône de gloire. On peut être, à force de répéter ces concepts, on peut perdre un peu le sens. Réaliser toute l'immensité, l'incroyable puissance, l'incroyable amour que cela a manifesté. Mais sachez que nous sommes sauvés pour servir. Vous vous souvenez que lorsque les disciples s'étaient réunis dans la chambre haute, Jésus leur avait demandé, dans le livre des Actes, on voit qu'après sa mort et sa résurrection, il leur avait demandé d'aller se réunir et leur avait promis qu'ils recevraient une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, pour être ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Nice fait partie de ces extrémités de la terre. Nice peut devenir notre Jérusalem. Et puis la région, ça devient notre Judée, la Samarie, c'est peut-être la France. Et puis nous aussi, nous avons l'invitation de servir jusqu'aux extrémités de la terre. Mais notez bien qu'avant de servir, d'être ses témoins, il devait recevoir cette puissance du Saint-Esprit. Et là, on a souvent expliqué que c'était une puissance qui les rendait capables d'être des témoins efficaces. Je crois que le Saint-Esprit vient en nous dès que nous acceptons le Seigneur comme notre Maître et Sauveur. On ne peut pas appeler Jésus Maître et Seigneur, Maître et Sauveur, si ce n'est par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient en nous, mais nous avons besoin qu'il vienne sur nous pour nous rendre capables d'un ministère de témoignage puissant, réel. Le Saint-Esprit se manifeste en nous par ce que Paul appelle dans Galates 5 les fruits de l'esprit. On peut regarder ensemble dans l'épître de Paul aux Galates, c'est à la page 217, c'est verset 22 du chapitre 5, page 217 dans la Bible à la colombe, Galates 5, 22. Et il oppose ce qu'il appelle le fruit de l'esprit aux œuvres de la chair. Et il a dit au verset 19, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les hostilités, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ça, ce sont les fruits de l'esprit. En fait, vous voyez que dans le texte, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit qui est l'amour et toutes ces autres qualités, la joie, la paix, la patience, etc., c'est un peu des aspects, des caractéristiques de cet amour qui est le fruit de l'esprit. L'autre passage où il est question d'amour, c'est bien sûr 1 Corinthiens 13. Mais aujourd'hui, nous allons voir ce que Paul appelle les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit, et ici, c'est le seul endroit où on trouve vraiment le mot de don. Dans les autres passages qui parlent de ces mêmes dons, il est question simplement des spirituels, des choses spirituelles. Et ici, il est question des charismata. Charismata, ce sont les dons qui viennent de la grâce de Dieu. La grâce, c'est charis. Donc, l'expression charismatique qui veut dire, qui parle des églises qui mettent l'accent sur ces dons de l'esprit, ce qui est une bonne chose en soi. Le danger, c'est qu'on se concentre tellement sur les dons qu'on oublie des fois le fruit de l'esprit, le caractère d'amour, de gentillesse, d'humilité. Et c'est pour ça que Paul commence bille en tête au verset 3 en disant par la grâce qui m'a été donnée. Encore une fois, tout est par la grâce de Dieu. On ne mérite rien en tant que tel. L'autorité apostolique de Paul, c'est pas quelque chose qu'il avait mérité parce qu'il était plein de zèle. C'est Dieu qui a décidé, dans sa souveraineté, de faire de lui un apôtre, de le faire souffrir pour annoncer l'évangile aux païens. Et il met en garde chaque chrétien à avoir une saine évaluation de soi-même. Je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Une invitation à l'humilité. Pourquoi est-ce que Paul a besoin de nous inviter à l'humilité? Devinez. C'est parce qu'il y a cette tendance universelle que nous avons héritée avec la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, cette tendance universelle de la race humaine à se croire plus qu'on est. Et notamment dans le domaine spirituel, on peut avoir beaucoup d'orgueil lorsqu'on on se pense supérieur aux autres par notre consécration, par nos dons. Et Paul nous dit de grâce, il dit par la grâce qui m'est donnée, je vous dis, ne soyez pas déraisonnables, ayez de la modération. Ne pas avoir la folie des grandeurs. Ne pas s'imaginer qu'on est tout seul à vouloir faire la volonté de Dieu. Vous vous souvenez du prophète Ésaïe que Paul avait déjà cité lorsqu'il était poursuivi par Jézabel et qu'il pensait être le seul à lutter contre les prophètes de Baal. Le Seigneur lui avait dit, il y en a 7000 qui n'ont pas baissé le genou devant Baal. Autrement dit, ne te crois pas être Superman. Super prophète, tu n'es pas le seul, si tu tombes, j'en ai d'autres. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans notre vie de chrétien. Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes tous à critiquer l'arrogance des gens dans le domaine public. Juppé qui était trop raide dans ses bottes, repentir pour en être coupable. Et, je dois le confesser, j'en suis souvent coupable. Il y en a qui sourient parce qu'ils me connaissent. Et ça, c'est quelque chose qui déplaît complètement à Dieu. L'arrogance. Se croire quelque chose alors qu'on n'est rien si ce n'est par sa grâce. Ésaïe avait dit « Malheur à ceux qui se croient sages et qui se considèrent intelligents. » Ça veut dire que si vous pensez que vous êtes intelligent, peut-être il faut revoir cette opinion de vous-même. Il n'est pas bon ni glorieux pour les hommes de rechercher leur gloire, disent les proverbes. Il est dit que si vous voulez être qu'on vous fasse des compliments, laissez les autres vous faire des compliments. Ne vous faites pas vous-même des compliments. On raconte l'histoire de ce jeune pasteur qui arrivait dans une église, qui sortait du séminaire, qui maîtrisait le grec, l'hébreu, et qui allait enfin apprendre la vérité à sa paroisse, à cette congrégation. Il était arrivé, il était monté sur l'estrade, sur le podium, plein de confiance, et même un air un peu hautain, un peu arrogant. Il avait commencé à parler des mots en grec, des mots en hébreu. Et puis devant le peu de réponses de son auditoire, il avait commencé à se sentir un peu mal à l'aise, gêné. Et finalement, à la fin, il était parti la tête basse, complètement humilié. Et il y avait une vieille dame qui disait à son ami: je te le dis, moi, s'il était arrivé comme il est sorti, il serait sorti comme il est arrivé. Autrement dit, s'il n'avait pas montré cette arrogance, le Seigneur l'aurait peut-être encouragé. Mais toujours ce souci de ne pas se croire quelque chose qu'on n'est pas. Et c'est vrai que l'orgueil, c'est être conscient de soi-même. Mais l'orgueil et le diable et notre chair sont rusés. Et puis il y a ceux qui, au contraire, vont dire « moi, je vaux rien ». Et en général, c'est de l'orgueil déguisé, ça. Lorsqu'on dit « oh, je sais rien faire, je suis un bon à rien », c'est parce qu'on attend que les gens nous disent: mais non, tu peux y arriver, il ne faut pas te laisser abattre, tu as plein de valeur. Et si vous voulez tester les gens qui vous disent ça, la prochaine fois quelqu'un vous dit « je suis bon à rien », dites-leur « oui, c'est vrai », et vous verrez s'ils vont pas se fâcher. Ça, c'est de la fausse, un faux orgueil, c'est de l'orgueil déguisé. Et puis il y a aussi l'autre aspect, c'est la fausse modestie. La timidité, on n'ose pas se mettre en avant. Mais en fait, c'est parce qu'on est tellement soucieux de l'image qu'on donne aux autres qu'on a peur d'en donner une mauvaise. Et c'est de l'orgueil encore. Donc l'orgueil, c'est très insidieux, mais dans tous les cas, c'est déraisonnable. C'est excessif. Et en même temps, on doit avoir de la modération et agir en fonction de la foi que Dieu nous a donnée, la mesure de foi que Dieu lui a départie. Alors les commentateurs ont du mal à se mettre d'accord pour savoir qu'est-ce que c'est que cette mesure de foi. Est-ce que c'est une quantité de foi que Dieu nous donne qui nous permet d'agir pour son service? Ou est-ce que c'est une connaissance de la foi, c'est-à-dire de la doctrine chrétienne qui a été révélée une fois pour toutes, comme le dit Jude? Peu importe, vraiment, c'est faire en fonction de ce que Dieu nous a donné. Mais toujours dans la modestie et en reconnaissant que c'est seulement parce que nous avons reçu de lui. Paul disait, est-ce que tu as quelque chose que tu n'es pas reçu? Donc ça aussi c'est une invitation à la modestie. Et des pensées raisonnables, c'est justement réaliser que toutes les bonnes choses que nous pouvons avoir en nous ou à notre disposition, ce sont des cadeaux de Dieu. Même si nous sommes doués dans certains domaines intellectuels, c'est simplement parce que Dieu nous a fait ses dons. On n'a rien à faire valoir, rien de quoi nous vanter en fait. Jacques le disait, tout don excellent, tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a pas de changement ni ombre de variation. Il faut réaliser aussi qu'il y a plein de gens doués dans le corps de Christ et qu'il y aura toujours des gens plus doués que moi. Et l'orgueil, c'est vraiment, quand on y pense bien, c'est stupide. Et le meilleur exemple d'humilité, bien sûr, ça a été Jésus-Christ. Lui qui était Dieu n'a pas exigé comme une proie arrachée d'être, de se faire homme, nous dit Paul dans Philippiens, le fameux passage de Philippiens 2. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il a continué cette humiliation. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça, c'est un principe dans qui va nous élever. Et que lorsque nous reconnaissons que nous sommes rien sans Dieu, c'est lui qui va nous élever. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. C'est un principe dans l'économie divine. Et lorsque quelqu'un s'humilie devant vous, quelque part, il grandit devant vous. Parce que l'humilité est une belle vertu que Jésus-Christ a exemplifiée, dont il a été l'exemple. Et lorsqu'elle est sincère, l'humilité est un doux parfum. La fausse humilité, alors ça sent pas bon. Mais la vraie humilité, elle est belle à voir. Elle ouvre les cœurs. Lorsque vous parlez, vous partagez votre foi, soyez sensible à l'image que vous projetez. Dans le sens où si vous êtes belliqueux, si vous êtes prêt à lever le ton à votre voix, peut-être que vous gagnerez l'argument, mais vous aurez perdu la personne. Et c'est facile à faire. Des fois, on peut avoir de la colère contre les fausses doctrines, mais c'est pas en élevant la voix, en étant plein d'arrogance et de certitude, que l'on peut espérer toucher les cœurs. 1 Pierre 3:14, il nous disait, c'était Pierre qui nous disait, 1 Pierre 3:15, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience. C'est pas la peine de parler de Jésus de façon arrogante ou belliqueuse, prêt à se mettre en colère, c'est pas la façon dont on se présente comme ambassadeur de Christ. Paul nous met bien en garde parce que c'est vrai que l'usage ou l'utilisation des dons spirituels peut porter les uns et les autres à de l'orgueil spirituel. Et en aucune façon, il ne faut penser que les dons spirituels, la présence de dons spirituels, sont un signe de maturité spirituelle. Ou que quelqu'un qui a des dons spirituels doit être pris comme un modèle ou un exemple. Plus important, encore une fois, que les dons spirituels, c'est le fruit de l'esprit qui doit être notre caractéristique. Les dons, c'est Dieu qui les distribue. L'Esprit Saint les distribue comme il le veut à chacun. L'image qui revient souvent pour parler de l'Église avec Paul, c'est le corps. Il y a d'autres images dans la Bible. On parle des fois de l'Église comme un bâtiment dont Jésus est la pierre d'angle, la fondation. On parle de l'Église comme un troupeau dont Jésus est le berger, le bon berger. On parle de l'Église comme d'une armée dont Jésus est le général. On pense souvent à Josué, le général, qui était un type de Jésus. On pense aussi que l'Église, c'est une épouse qui va être réunie à Jésus dans les noces de l'agneau. Jésus, c'est le mari. Soyez soumis à votre époux comme Jésus, comme l'Église est soumise à Christ. Mais surtout, l'expression qui revient, c'est que l'Église est un corps. Et il n'est pas dit que l'Église est comme un corps, l'Église est un corps. Une espèce de corps mystique, mais c'est une réalité spirituelle qui fait que bien que nous soyons plusieurs, nous avons une unité en Christ. Corps n'étant pas la même fonction. On peut lire, si vous le voulez, ensemble 1 Corinthiens 12 à partir du chapitre du verset 12 du chapitre 12. Le passage où Paul nous parle des spirituels, les traducteurs mettent entre parenthèses les dons spirituels, et pour bien expliquer l'usage et le fondement et la raison d'être de ces dons, à partir du chapitre 12, Paul explique. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait, « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était un œil, imaginez, là on parlait l'autre jour de grosses têtards, là on voit un gros œil, comme un ballon de rugby, avec un œil peint dessus. Où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire au pied, « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à celui qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. très belle image de ce corps pour représenter l'Église et l'importance de chaque partie de ce corps. Je me souviens, je pensais que les doigts de pied, à part peut-être le gros orteil, les doigts de pied, ce n'était pas vraiment important. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on pouvait taper sur le clavier de l'ordinateur. Ce n'est pas quelque chose de très beau, sauf si c'est des pieds qui annoncent la bonne nouvelle de l'Évangile, Romains 10. Mais si vous... Le petit orteil. J'avais une douleur qui me lancinait et il avait montré son importance, même dans le sens de l'équilibre, dans la marche. Un petit bout vous manque et tout est dépeuplé. L'importance de chaque partie du corps. Et Paul se régale avec cette analogie. Il nous dit, si tout le monde voulait être la bouche, il y aurait plus de bras pour amener la nourriture à la bouche. Il ne dit pas ça, mais enfin, on voit qu'il joue avec ce concept en disant qu'il est normal que chacun ait une fonction différente et il n'y a pas de hiérarchie. Le fait que le nez puisse sentir, ça ne veut pas dire que le nez est plus important que l'œil ou que l'ouïe. Et ça, c'est fondamental dans le corps de Christ, dans l'Église. L'Église, dans son ensemble, je crois que différentes dénominations peuvent avoir des aspects spécifiques qui font que ces églises vont être un aspect différent du corps de Christ. Certains vont mettre l'accent sur les dons de compassion, ils vont comment ouvrir des orphelinats, ils vont se lancer dans le travail social. D'autres vont être plus axés sur l'enseignement de la Bible, d'autres vont être plus axés sur les dons. Mais chacun peut, en représentant une spécificité différente, être une partie intégrante du corps de Christ au sens large, l'Église dans le monde entier. Ce qui est terrible, c'est lorsqu'il y a de l'orgueil de la part de l'un des membres. Si ma main disait, ma bouche disait, je suis la plus importante, et que ma main décide de faire grève, c'est à la mode en ce moment, il n'y aurait plus de nourriture qui arriverait à la bouche. Et la bouche pourrait crier tout ce qu'elle veut, elle ne pourrait plus se nourrir mon corps. Cette interdépendance est vitale. Ce qui est intéressant, c'est que nous vivons dans un monde occidental où on met beaucoup l'accent sur l'individualité. On n'a pas tellement le sens du sacrifice pour le bien de la collectivité. On le voit malheureusement dans le fait que personne n'est prêt à remettre en jeu ses acquis sociaux pour le bien de l'ensemble. On pense que les acquis sont acquis, et que s'ils veulent changer, il faut qu'ils donnent ses acquis aux autres. Comme ça, tout le monde sera au même niveau. Mais ça, c'est pas l'interdépendance dont il est question dans la Bible. L'Église, c'est pas une organisation. L'Église, c'est un organisme. Les Nations Unies, c'est une organisation humaine. Ça s'appelle d'ailleurs l'Organisation des Nations Unies. Et si un membre ou un organe ne fonctionne pas comme il le devrait, l'organisme est malade. C'est vrai au niveau de l'Église universelle, l'ensemble des croyants sur la terre, des croyants en Christ, en Jésus comme maître et sauveur. C'est vrai dans l'Église locale. Si chacun ne fait pas sa part, à ce moment-là, l'organisme est malade. Il y a bien sûr besoin d'une coordination, et le coordinateur, c'est le chef de l'Église, c'est Jésus. Nous sommes unis dans ce corps, mais ça ne veut pas dire que nous sommes, encore une fois, que nous sommes uniformes, que nous sommes tous pareils. Ça, c'est les sectes. Quand vous voyez un Hare Krishna c'est difficile de le différencier d'un autre Hare Krishna, parce qu'il s'habille exactement pareil, il se rase exactement pareil, il tape exactement pareil sur le même tambour. Ça, c'est l'uniformité. C'est répressif. Ça... La chose merveilleuse, c'est que en Christ, nous pouvons avoir un équilibre entre notre propre individualité, la façon dont Dieu nous a fait, en nous donnant des dons, des aspirations, des goûts particuliers, et la façon dont il peut coordonner le tout pour en faire un organisme. Et l'Église, en fait, elle continue l'incarnation de Christ. Nous ne sommes, en tant qu'Église, que le corps de Christ qui reste sur la terre après que Christ, Jésus-Christ, ait été enlevé pour être assis à la droite du Père, où il intercède pour nous et pour l'Église. Mais ce qui est formidable, et en même temps très intimidant, mais peut-être salutaire, c'est de réaliser que si Jésus veut continuer à être vivant parmi les gens qui nous entourent, il a choisi, il aurait pu faire autrement, il a choisi de continuer à nous utiliser. Et il s'est même mis quelque part un peu en otage. Il s'est un peu mis à notre merci, dans le sens où s'il veut exprimer des larmes de compassion, il va avoir besoin de vos yeux. Lorsque vous allez voir de la souffrance, lorsque vous allez vouloir montrer l'amour de Dieu, il va pouvoir vous utiliser. Si Jésus veut encourager quelqu'un par des paroles bienveillantes, il va avoir besoin de vos bouches. Comme on le disait la semaine dernière, je crois, si on refuse d'être utilisé, c'est comme si on lui met un bâillon sur la bouche. Si Jésus vous demande de dire quelque chose, d'appeler quelqu'un, d'aller encourager une personne, de faire un petit effort, si vous ne le faites pas, c'est comme si vous le ligotez et vous lui mettez un bâillon sur la tête. Si Jésus veut étendre sa main vers quelqu'un qui a un besoin, il va avoir besoin de nos mains. S'il veut prendre dans ses bras quelqu'un qui a besoin d'affection, il va avoir besoin de vos bras. S'il veut se rendre quelque part, sur une place ou dans une maison, pour lui parler de lui, de lui-même, de l'Évangile, il va avoir besoin de vos pieds. L'incarnation de Jésus, elle continue. Jésus est vivant si nous, nous sommes vivants. J'ai dit qu'on le prenait en otage, ou il s'était mis un peu en otage vis-à-vis de nous. Il nous avait permis de le prendre en otage, plutôt. Si nous, nous le faisons, on va pas Dieu dérouler. Hein, c'est pas l'idée du petit garçon qui avait pas reçu son cadeau d'anniversaire et qui avait pris la statue de la Vierge Marie à l'Église catholique en disant si tu me fais pas venir ce cadeau, je te rends pas ta mère. Hein, c'est pas ce genre de prise en otage. Mais c'est un privilège. Dieu nous dit que il veut vivre à travers nous. Nous sommes son corps. L'Église est son corps. Et nous sommes dans un monde qui a tellement besoin de Jésus. Dès que vous êtes chrétien, vous faites partie du corps de Christ, que vous le vouliez ou non. Et pour servir, Dieu nous a donné, et là il a donné à chacun, à chacune, des dons. Ici il parle de, il y a une liste de 7 dons, ou charismes, selon le mot grec charismata, charisma. Et ce sont ces dons que Jésus utilisait quand il marchait sur la terre. Il s'était dépouillé de sa divinité dans le sens qu'il avait renoncé à ses privilèges divins. Et il fonctionnait selon les dons du Saint-Esprit. Et il les a exemplifiés parfaitement, tous. Le seul peut-être dont on Il n'est pas question, c'est le don de langue qui n'est pas été nécessairement pratiqué par Jésus publiquement. Mais tous les autres dons, on peut prendre les évangiles, on peut prendre les récits de sa vie pour voir les endroits où il les a mis en évidence. Et tous ces dons, tout ce service, encore une fois, Dieu veut des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Tous les dons se raccordent à la vérité de Dieu, à la vérité qui est annoncée dans la parole de Dieu. Et on va voir chacun des dons, il y en a 7 donc, en fonction de cette vérité. Le don de prophétie au verset 6, on revient à Romains 12, verset 6. Le don de prophétie, il faut l'exercer en accord avec la foi. La prophétie, c'est proclamer la vérité. Ça répond aux besoins spirituels. Ça veut dire pas nécessairement prédire le futur, mais proclamer la vérité. Ça veut dire annoncer la parole de Dieu sans embâge, en déclarant clairement les conséquences du péché. Et le plus souvent, c'est de redire ce qui est déjà dit dans la parole, ou de le dire sous une forme différente. Ça peut prendre des fois l'annonce de quelque chose de futur, mais le plus souvent, c'est simplement annoncer la vérité qui est déjà révélée. Et en proportion de votre foi, c'est le terme mathématique, là aussi, c'est le mot qui nous donne le mot analogique. C'est en fonction de ce que Dieu nous a déjà révélé, l'expérience que nous avons pu faire de ces promesses accomplies. Mais Jésus, vous vous souvenez de la femme samaritaine, lorsque Jésus lui parlait, il lui demandait d'aller chercher son mari, elle lui avait répondu « Je n'ai pas de mari ». Et Jésus lui avait répondu « Tu fais bien de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5, et celui avec qui tu vis maintenant, ce n'est même pas ton mari. En cela, tu as dit vrai, la vérité. » Et la femme lui répond, « Seigneur, je vois que tu es prophète. » Jésus était capable d'annoncer la vérité, de la proclamer, et bien sûr tout l'évangile, tous ses préceptes, c'était un prophète qui nous parlait. Le deuxième don dont il est question, c'est le don de service, où ici le mot « diaconat » est utilisé. C'est un mot un peu vieillot maintenant, le mot diaconat. C'est simplement le service qui, lui, va illustrer la vérité, qui va répondre à des besoins pratiques. C'est être capable de rendre service et d'être prêt à le faire. Souvent, ce n'est pas un don qui est très remarqué, mais c'est sans doute un des dons les plus importants. Ça peut être d'aider, par exemple, avec la cuisine pour quelqu'un qui vient d'avoir un bébé, pense peut-être à Feriel, préparer un repas, réparer la voiture de quelqu'un qui a des problèmes d'auto mais qui n'a pas les moyens de passer chez le garagiste, s'offrir à faire des travaux de peinture, c'est être disponible pour toutes ces choses pratiques. Un exemple, c'était en dehors de Jésus, c'était Tabitha ou Dorcas dans le livre des Actes, qui elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes, et elle avait été ressuscitée par l'apôtre Pierre parce que les gens ils avaient tellement besoin d'elle. Elle faisait sans doute des vêtements, et on n'a pas vu de pasteur ressuscité, mais on a vu cette femme qui avait le don de service ressuscité, parce qu'elle était tellement importante pour la communauté. Jésus, bien sûr, c'était lorsqu'il avait lavé les pieds de ses disciples. C'était vraiment se mettre au point de l'exercer, clarifier, rendre la vérité vivante. C'était un peu Jésus lorsqu'il disait « Vous avez entendu dire qu'il ne faut pas commettre le meurtre, mais moi, je vous explique, ça va beaucoup plus loin. Si vous avez dans votre idée que cette personne est un imbécile, ça montre la même chose dans votre cœur. » Qu'est-ce qui doit être enseigné toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Paul disait qu'il avait annoncé toute la parole, tout le dessein de Dieu sans rien dissimuler. On commence à la Genèse, on termine à l'Apocalypse. Souvent, le don d'enseigner, il se révèle parce que vous sentez en vous le don d'étudier. On ne peut pas enseigner sans étudier. Paul disait à son jeune protégé Timothée de se présenter devant Dieu comme un homme qui avait fait ses preuves, un ouvrier qui n'avait pas à rougir, mais qui dispensait avec droiture la parole de la vérité. Il faut être capable de discerner, de présenter, et donc d'étudier. Si vous n'avez pas envie d'étudier, peut-être vous avez le don d'exhorter, prenez une idée, vous la communiquez avec force. Ça, c'est le don suivant. Le don d'exhortation, c'est le mot qui nous donne le mot de paraclé, qui veut dire « venir auprès d'eux ». C'est pour réconforter, c'est mettre en pratique, aider l'auditeur à mettre en pratique la vérité. Ça répond à des besoins émotionnels. La personne est déprimée, vous venez et vous, avec des paroles de vérité, vous l'encouragez. Et c'est souvent un don complémentaire du don d'enseignement. S'il n'y a que de l'enseignement et pas d'exhortation à faire le bien ou à mettre en pratique, alors on peut avoir des brebis grasses, bien repues, mais prétentieuses, qui ne sont pas d'une grande utilité dans le royaume de Dieu. A l'inverse, s'il y a de l'exhortation, allez aimer vos voisins, faites du bien, sans étude profonde de la parole, alors on va avoir des brebis maigrichonnes, qui ne peuvent pas appliquer parce qu'elles ne connaissent pas. Donc il va y avoir beaucoup de bonne volonté, mais il faut les deux. Dans Acte 4, il est question d'un lévite qui s'appelait Barnabas, et son nom, ça veut dire « fils d'exhortation ». Lui, c'était quelqu'un dont vous avez besoin dans une assemblée, quelqu'un qui vous encourage. Dans Hébreu, il dit « Exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » L'exhortation, l'encouragement, c'est très important. Il est question ensuite du don, au verset 8, du don de donner, du don de libéralité qu'on doit faire avec simplicité. C'est donner généreusement. Chacun est invité à donner la dîme et à être généreux avec ceux qui l'entourent. Mais certains reçoivent un don spirituel, un don vraiment inspiré par le Saint-Esprit, qui fait qu'ils ont la capacité d'être des canaux de la richesse de Dieu. Un exemple, c'est l'industriel qui a fondé la compagnie de céréales Quaker Oats. Il a une bonne tête bien rouge là sur les... Je ne sais plus, on le voit de moins en moins. Mais aux États-Unis, il avait promis à Dieu, lorsqu'il avait commencé sa compagnie, qu'il allait donner 90% de ses bénéfices à l'œuvre de Dieu, aux missions, aux églises. Au début, quand il vendait 2-3 boîtes, c'était bien, mais ce n'était pas énorme. Mais à la fin, lorsque c'est devenu une affaire qui s'est chiffré en millions de dollars, c'était vraiment la foi de donner généreusement. Et ça va soutenir la vérité. Ça va répondre aux besoins matériels, aux besoins financiers. Le don de présider ou de diriger, ça c'est administrer la vérité. Il y a besoin d'organisation. Jésus l'a fait lorsqu'il a donné et multiplié les pains à partir des 5 pains et des 2 poissons. Il a mis la foule en ordre, il leur a demandé de s'asseoir sur l'herbe, il a donné à chaque disciple un panier pour qu'ils aillent distribuer. Il y avait cette organisation. Il y a besoin de structure dans ce qu'on fait. Pas une structure pesante et lourde, mais une structure qui permette de servir. Et puis, il est question finalement du don de miséricorde qu'on doit exercer avec joie. Don de miséricorde, c'est répondre aux besoins matériels, c'est démontrer la vérité. Et ça, c'était Jésus, lorsqu'il voyait la foule, il était rempli de compassion. Il savait qu'ils avaient faim. Il répondait à leurs besoins matériels. Il montrait de la miséricorde. La question, c'est pas de savoir si les dons sont pour aujourd'hui, comme certains se posent la question, mais plutôt de vous demander quel est mon don ou quels sont mes dons. Et si vous ne mettez pas la main à la pâte dans l'Église, vous êtes comme une main qui resterait dans la poche. Alors on sait qu'il y a, un jeune acteur comique qui a un succès en gardant une main dans la poche. Mais l'idée, c'est que tous les dons soient au service de Dieu, soient au service de son corps. Et un corps où les dons, où les membres ne sont pas coordonnés, c'est un membre malade, c'est un corps malade. C'est malheureusement des personnes qui peuvent être atteintes de maladies, où les gestes sont manquent de coordination, ils ne peuvent pas marcher, ils ont du mal à vivre en société. Nous devons les aider, nous devons leur montrer de la compassion. Mais peut-être vous vous demandez, quel est mon don ? Encore une fois, il y a les dons naturels, on peut être doué pour jouer de la guitare, et puis il y a les dons spirituels qui peuvent utiliser ces dons naturels, mais pour les mettre au service de Dieu. Ça peut être un sentiment d'être capable de faire entrer les gens dans la présence de Dieu. Ça, c'est un don de directeur de louange, plus que d'être un virtuose du violon ou de la mandoline. Comment connaître mon don ? Il y a un auteur qui a illustré cette recherche de façon amusante en disant que suivant la façon dont vous réagissez à une situation, vous pouvez voir quel est votre don principal. Ce matin, on n'avait pas les transparents pour la louange. Et c'est de ma faute parce que la semaine dernière, je les ai pris pour... Il en manque certains, je voulais recompléter. J'ai travaillé un peu dessus jeudi et je croyais qu'ils avaient été ramenés. Je ne m'en suis pas assuré ce matin. Et ce matin, avant de commencer, Nina me parlait. J'ai dit, mais elle a peut-être remarqué que j'ai cessé d'être attentif. C'est parce que dans ma tête, j'ai dit, mais où est le livre ? J'ai vérifier qu'en fait le livre n'était pas là, il était toujours à la maison. Donc j'ai essayé de partir, mais je suis parti tellement vite que j'ai pas pris mon sac où il y avait les clés de la maison. Donc à Jean Médecin, j'ai fait demi-tour et j'ai dit, Seigneur, peut-être je peux utiliser ça comme une illustration ce matin. J'ai oublié les transparents. Si vous avez le don de prophétie, le don d'annoncer la vérité. Votre idée, ça va être de changer les habitudes, de me reprendre. Vous allez dire, je suis en place, ça finit par arriver, c'est une bonne leçon. Bon, ça c'est la vérité. Est-ce que c'est la façon dont vous réagiriez ce matin parce qu'il n'y avait pas les transparents ? Imbécile Pierre, qu'est-ce que tu as fait ? Tu n'as pas les transparents. Peut-être vous êtes appelé à être prophète. Si vous avez le don de service, l'idée, ça va être d'aider, de servir. Et Thierry m'a dit, mais ce qu'on peut faire, c'est chanter des chants que tout le monde connaît. On va pas s'en faire. Respire un bon coup, relaxe-toi, c'est pas grave. L'idée, c'est de servir. Si vous avez le don d'enseignant, vous allez dire... Ça s'est produit parce que tu n'as pas fait une note sur ton bureau pour te dire « vérifie ». Tu aurais même pu marquer sur le transparent ici « n'oublie pas le carnet » parce que en ne mettant pas de rappel, tu t'es exposé à ce que ta mémoire qui est fatiguée avec la chaleur ne fonctionne pas convenablement aujourd'hui. Et donc, la prochaine fois, il faudrait que d'abord tu fasses... Et donc, il y a tout un enseignement. Hein. Et peut-être que c'est votre idée, vous aimez bien préciser les choses, vous aimez bien décortiquer. Vous avez peut-être le don d'enseignement. Si vous avez le don d'encouragement, d'exhortation, l'idée c'est aussi d'éviter que ça se reproduise dans le futur. Vous allez dire aussi, ne prends jamais tous les transparents. si tu en prends qu'une partie, tu vas pouvoir faire le travail que tu voulais faire, et c'est formidable de mettre à jour, mais au moins il y aura une garantie, et comme ça l'Église ne sera pas trop désorientée. Et en fait, j'ai trouvé que ce matin la louange était profonde, parce que on peut se concentrer, on n'a pas la distraction visuelle si on ferme les yeux. Et je sais que plusieurs d'entre vous, les yeux n'ont pas besoin d'être ouverts. Ça, c'est peut-être quelque chose que le Seigneur veut nous apprendre aussi. Si vous avez le don de libéralité, elle est transparente là. Et combien ça coûterait de faire un autre jeu complet? Où est-ce que tu t'es renseigné maintenant avec les ordinateurs? Ils vendent ces vidéoprojecteurs là. Ça coûte combien? Moi, ça me ferait plaisir de contribuer de cette façon. Ça, c'est le don de libéralité. On ne regarde pas la dépense. On veut. Le Seigneur nous a choisis pour recevoir de l'argent et en même temps pour le donner. Ce n'est pas pour l'accumuler, mais c'est pour être un vecteur de sa richesse. Si vous avez le don de président, le don de direction, vous allez dire: Thierry, va chercher des grandes feuilles dans l'arrière-salle. Marie-Christine, tu vas commencer, voilà, je vais pas chercher les feutres, on va commencer à écrire, etc. L'idée, c'est d'organiser pour atteindre un but, pour remplacer ce qui manque. Si vous avez le don de miséricorde, alors vous allez dire, oh, un peu comme Thierry l'a fait, t'en fais pas, Pierre, c'est pas grave, c'est... Au contraire, peut-être que la louange va être plus riche, parce qu'on va pas être distrait par le rétroprojecteur. Ça m'est arrivé l'autre jour, j'avais un examen, j'ai oublié. Et l'idée, c'est d'éviter que la personne se sente mal à l'aise, d'être embarrassée. L'idée, c'est que chacun de vous, vous avez une façon de réagir. Dieu vous a fait d'une telle façon que vous avez envie de réagir d'une façon ou d'une autre. Mais ce qu'il faut, c'est que tout le monde s'y mette. Je terminerai par une petite parabole. C'est frère Marteau qui avait été désigné comme président de la grande convention des outils. Et il y a frère Tournevis qui s'y était opposé violemment en disant: frère Marteau, tu es trop bruyant pour présider cette rencontre. Tu essayes toujours d'impressionner les gens en frappant du poing sur la table. Tu veux toujours enfoncer le clou, passer en force. Je te demande ta démission immédiate. Et frère Marteau lui avait répondu: mais toi, frère Tournevis, tout ce que tu fais, c'est tourner en rond. C'est peut-être vrai, dit frère Tournevis, mais au moins je ne suis pas comme frère Rabot. Lui, c'est vraiment un travail en surface. Il manque de profondeur. Comment se fait-il qu'on l'ait invité? Frère Rabot répond: alors si vous voulez me renvoyer, il faut renvoyer aussi sœur La Règle. Elle se prend pour quelqu'un de droit et elle mesure tous les autres selon ses propres critères. Oh, sœur La Règle répond: si vous voulez en prendre à moi, alors... Sœur La Tenaille, il faudrait qu'elle lâche un peu ce qui l'entoure. Sœur La Tenaille dit: moi au moins je frotte pas les gens à rebrousse-poil comme frère papier de verre. Et puis au milieu de cette dispute est arrivé le maître artisan, et prenant chaque instrument au bon moment, il a pu créer un objet de grande beauté. Cette petite allégorie nous montre que c'est stupide de nous critiquer parce que nous n'avons pas les mêmes dons. Mais ce qui est important, c'est d'être disponible pour que le grand artisan puisse faire une œuvre de beauté, une œuvre d'art, qui puisse faire avancer son royaume. Ça, c'est l'œuvre de l'Église, Christ en nous, à l'œuvre dans le monde, en utilisant chacun de nous. Amen. Prions. Seigneur, merci pour tes desseins, pour tes plans que nous ne comprenons pas, que nous avons du mal à expliquer. Et cependant, Seigneur, nous voyons, nous savons que ta sagesse est infinie. Et dans cette sagesse, tu nous as créés tous différents, Seigneur. Mais tu nous as tous placés dans ton corps. Et que si nous voulons te permettre d'être à l'œuvre dans ce monde, tous nous devons jouer notre rôle, Seigneur. Nous devons être humbles. Aussi stupide serait une main qui se croirait supérieure aux pieds, aussi stupide est celui qui croit avoir que le don de présider est plus important que le don de service, ou celui qui croit que le don d'enseigner est plus important que le don de compassion. Tout ce que tu nous demandes, Seigneur, c'est d'être fidèle à ce pourquoi tu nous as fait, Seigneur. Et c'est ma prière, c'est notre prière, Seigneur, qu'ensemble nous puissions être des outils entre tes mains pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Te demandons de déverser sur nous ton Esprit Saint. Merci pour les dons que tu as déjà donnés. Te demandons les dons les plus excellents, les meilleurs dons, Seigneur. Et c'est souvent les dons qu'il faut pour le moment venu, Seigneur. De même qu'il n'y a pas une scie meilleure qu'une autre, Seigneur, il y a une scie pour couper des bûches, il y a des scies pour couper des planches, des scies pour découper des petits cabinets, Seigneur. Chaque outil a son moment et son utilité, Seigneur. Je te prie d'encourager chacun à trouver vraiment son don, que tu confirmes par ce qu'en disent les autres, Seigneur. Et Seigneur, nous te remercions aussi que ça nous pouvons et nous devons le faire dans l'humilité. Il n'y a pas de don que nous ayons reçu qui ne vienne de toi. Et si ce sont des dons reçus, pourquoi s'en vanter, Seigneur? Sois glorifié dans notre vie. Dans notre vie d'église, Seigneur. Et nous prions pour l'église dans son intégralité, Seigneur. Tous les croyants de par la terre.